Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour et bienvenue à vous qui nous retrouvez comme chaque semaine dans les rendez-vous du Mantois. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, alors merci pour cette fidélité. Aujourd'hui, en cette fin de semaine, nous recevons Bruno Millienne, député de la 9e circonscription des Yvelines, en direct sur BPM. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour à vous.
Ce matin ensemble, nous allons aborder différentes thématiques qui vous tiennent à cœur, à savoir la décarbonation des transports, l'économie circulaire et l'efficacité énergétique, mais aussi votre implication sur les territoires. Avant de démarrer notre émission, difficile de passer à côté, bien sûr, de l'actualité du moment, les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Quelle est votre réaction ?
Alors d'abord, il faut signaler que les choses sont en train de se calmer. La nuit a été plus calme et tant mieux. Il faut revenir maintenant au calme et commencer effectivement les négociations. Moi, je regrette les morts et je pense aux familles des victimes. Après, je dirais que tout le monde a eu un peu tort. Je pense que le gouvernement a eu tort, après Édouard Philippe, de ne pas laisser ce dossier à Matignon, parce que ça, les Kanaks y tenaient. On a eu peut-être tort de ne pas écouter les Kanaks quand ils ont voulu faire le report du dernier référendum, même si je pense que le résultat aurait été le même. Et puis même si je pense qu'il y a quand même une espèce de particularité, c'était reporter le référendum, mais en revanche, pour les élections législatives, ils n'ont pas demandé de report. Et ils ont été votés. Donc ils ont boycotté le référendum, mais ils ont été votés pour les législatives. Donc voilà, il y a toujours un petit peu de jeu politique ou politicien. Après, la situation de l'île, c'est comme dans beaucoup des îles en France, il y a des indépendantistes un petit peu partout. Or, toutes les îles, que ce soit les îles... Je pense à la Martinique, à la Guadeloupe, bien évidemment, mais je pense aussi même, on peut penser à la Corse, hein, même si ça remonte un peu loin dans l'histoire, et à la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des îles sur lesquelles, oui, il y avait des peuples autochtones. Et ces peuples autochtones ont vu arriver d'autres peuples. C'est le jeu des migrations. Et tout ça s'est mélangé et a bien vécu pendant des années et des années. Et tout d'un coup, on réveille par moment cette légitimité autochtone du peuple premier. Alors que pendant des années, tout se passe bien. Donc voilà, il y a un peu de politique politicienne, évidemment faite par nos amis de la France insoumise, en mettant en avant le peuple premier. Enfin voilà, ils parlent de peuple premier, ils comprennent que tout le monde ne puisse pas voter, ça ne leur pose pas de problème, alors que si on faisait ça en France, ils hurleraient au scandale. Donc c'est un territoire français pour l'instant, il y a eu trois référendums. Les trois référendums, même si le dernier, effectivement... Les Kanaks n'ont pas participé au référendum. Les trois fois, ça a été « oui, nous voulons rester français ». Donc sur un territoire français, il est normal de penser que chaque Français sur un territoire français puisse voter pour toutes les élections qui concernent son territoire. Donc voilà, ce dégel du corps électoral, il va falloir le faire. On n'a peut-être pas été très malin dans la méthode, donc ça je prends pour nous, mais maintenant il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Et d'ailleurs les indépendantistes, pas les radicaux, hein, mais les indépendantistes appellent effectivement à la négociation maintenant.
Et donc à l'apaisement, comme vous le disiez.
À l'apaisement, oui, et puis qu'on trouve une solution globale.
Pour débuter cette émission, en tout cas, j'avais envie de revenir un petit peu sur votre parcours, tout d'abord. Vous êtes officiellement engagé en politique en 2007, avant d'être conseiller municipal, puis conseiller régional, et enfin député en 2017. C'est un peu une carrière presque sur le tard, on pourrait dire.
Oui, c'est la carrière d'un citoyen, on va dire, qui s'est toujours intéressé à la politique, mais qui n'avait jamais osé franchir le pas parce qu'il n'y avait pas de parti politique qui correspondait complètement à ses valeurs. Moi, je suis plus de sensibilité de gauche, on va dire, mais j'ai ce côté libéral en moi, ou en tout cas, ce côté de liberté ou de laisser faire les gens. Moi, j'aime bien le côté entrepreneur. J'aime pas trop l'économie dirigée. Et puis, il y a un homme qui est arrivé en 2007 qui s'appelle François Bayrou, et qui a dit une chose, moi, qui a fait tilt tout de suite, c'est une idée est bonne parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle vient de la droite ou de la gauche. Et ça, pour moi, ça a été le déclic, parce que je voyais ces combats permanents entre la droite et la gauche, où on avait des alternances, où chaque fois un camp défaisait ce que l'autre avait fait, pour finalement le refaire après, et j'avais l'impression que ça provoquait une forme d'immobilisme et qu'on n'avançait pas. Donc c'est pour ça que je me suis engagé sur le tard. Je me suis engagé comme un citoyen qui aimait la politique et qui s'est dit pourquoi pas en faire.
Le rôle de député, il est assez complexe, ou en tout cas il se veut divers, parce que vous êtes d'une part un représentant de la nation entière à l'Assemblée nationale, mais votre travail se fait aussi au sein de la circonscription, donc la 9e, qui rassemble les cantons d'Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Oudan et Melun. J'ai lu qu'en juin 2008, soit seulement un an après le début de votre mandat, le journal Le Parisien vous a classé député le plus actif des Yvelines. Ça semble pas être tout repos, député.
Bah, ça dépend comment vous faites votre mandat, mais c'est valable pour tous les mandats, ça dépend. Alors là, ça tient à la psychologie même de la personne, qu'il soit député ou cadre dans une entreprise ou ouvrier. Si vous considérez que le métier ou le mandat que vous faites, c'est quelque chose que vous avez choisi et qui vous passionne, je vois pas comment vous ne pouvez pas le faire à fond. Voilà, c'est tout. Donc à partir de là, effectivement, on est un peu dans une lessiveuse, hein, je vous avoue, parce qu'on est obligé d'aller partout, de voir tout, parce qu'on n'a pas encore décidé forcément qu'on allait, par exemple, au niveau national, se mettre sur un créneau particulier pour lequel on a le plus d'appétence. Donc on essaye de toucher à tout, tous les textes nous intéressent. Donc on est présent partout, et puis on est présent partout sur le territoire aussi. Je vous avoue, des fois, pour répondre à des problématiques qui n'en sont pas forcément et qui peuvent faire perdre un peu de temps. Puis après, tout ça se canalise. Et vous avez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'ai plus de permanence, par exemple, sur la circonscription. Alors, ça peut paraître bizarre. J'avais une permanence à Maule. Pourquoi Maule ? Parce que Maule, c'était vraiment le centre de la circonscription. D'où que vous veniez du point le plus éloigné de ma permanence, vous mettiez à peu près le même temps. Pendant le premier mandat, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui venaient me voir, effectivement, mais dans un rayon de 5-10 km, pas plus. Au-delà de ça, ils ne venaient pas me voir. Et après le Covid, alors pour le coup, là, il n'y avait plus personne. Donc maintenant, on traite tout directement par mail. Les gens nous écrivent, voire même au téléphone, parce que je donne assez facilement mon téléphone personnel, donc il n'y a pas de problème. Et puis, on résout leurs problèmes, pas seulement depuis le bureau à Paris. J'ai des collaborateurs qui travaillent pour ça. Et puis, on se déplace quand les problématiques sont assez sérieuses pour aller voir les gens si on ne comprend pas, si on a besoin de choses. Et d'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que du coup, on a un contact encore plus intimiste, on va dire, avec la population. C'est toujours un peu intimidant d'entrer dans une permanence de parlementaire. C'est moins intimidant quand un parlementaire vient chez vous.
Aujourd'hui, vous faites partie de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Et un de vos fers de lance, c'est l'économie circulaire. D'ailleurs, vous avez fait un tour de France, vous parliez de faire le tour de France, un tour de France de l'économie circulaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?
Alors, ce qui m'a poussé à faire ce tour de France de l'économie circulaire, c'est pendant qu'on travaillait sur la loi Industrie verte. Moi, j'étais chargé avec Philippe Dornano, le patron de Sisley France, de travailler sur un sujet qui n'est pas dans la loi d'ailleurs, qui est produire, commander et acheter français. Et on s'est tout de suite posé la question de savoir, avant de commander et d'acheter français, et commencer par produire français, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, en interrogeant les entreprises, en essayant de trouver ce qu'on pouvait faire pour eux, on en reparlera peut-être après, moi j'ai été frappé par une entreprise, je vais la citer, HP, qui n'est pas une entreprise française, mais la branche française de HP, HP France, dirigée par une femme assez extraordinaire qui s'appelle Aurélie Guillemette, et qui m'a expliqué qu'elle allait remettre la main sur son gisement premier parce qu'elle allait reconditionner ses ordinateurs, notamment pour ses clients entreprises. C'est-à-dire qu'elle va proposer un service à ses clients entreprises qui n'est plus l'achat de laptop, mais qui est vraiment une forme de leasing de laptop. Et au bout de 3 ans ou 4 ans, quand votre laptop, votre ordinateur portable commence à faiblir, il vous le récupère, il le reconditionne totalement dans une entreprise française qui est à Boulogne-sur-Mer, SBE, avec des pièces d'origine HP. Ce faisant, le nouveau laptop, moi je l'ai vu, quand vous le regardez, vous ne pouvez pas faire la différence avec l'ancien, mais le nouveau, enfin, le reconditionné, son coût carbone est 75% inférieur au coût carbone d'un laptop neuf, et donc ils remettent ça dans l'entreprise. Mais ça pose un problème, c'est qu'avant les gisements, c'est-à-dire quand les ordinateurs que vous ne vouliez plus, finalement il y avait une filière REP, il y avait un éco-organisme qui récupérait ça, et qui faisait du reconditionnement ailleurs, qui faisait travailler l'économie sociale et solidaire. Je me suis dit, oulala, si l'informatique se met à vouloir mettre la main sur le gisement, il y a de fortes chances que beaucoup de filières veuillent mettre la main sur leur gisement. Donc on a été faire ce tour de France pour vérifier ça. C'était une alerte donc, pour vérifier ça. J'ai été aidé par une société, une entreprise d'affaires publiques qui s'appelle Comfluence, qu'on organisait, on a choisi les filières ensemble, mais c'est eux qui ont fait toute l'organisation. Et je me suis aperçu, ça a confirmé ce que je disais, je me suis aperçu que toutes les filières différentes qu'on a vues, effectivement, elles étaient toutes engagées, déjà très engagées dans l'économie circulaire, ce qui est une bonne chose en soi, mais ce qui va bousculer complètement tout ce qu'on avait mis en place depuis 20 ans, parce qu'à l'époque, les entreprises ou les filières ne voulaient pas récupérer leurs déchets. Aujourd'hui, elles ont compris que leurs déchets n'étaient pas des déchets, mais étaient quelque chose de, de valorisable. Donc ça a bousculé tout ce qu'on a mis en place, qui était très bien. La France était toujours citée en exemple là-dessus. Donc il y a urgence à mettre tous les acteurs autour de la table pour voir comment tout ça va se réorganiser. D'où l'idée qui va être lancée. Je crois qu'on fait une remise du rapport de ce Tour de France dans l'entour du 30 mai. Et on va faire un appel solennel à Christophe Béchu pour faire des assises de la circularité, avant éventuellement de faire une nouvelle loi. Mais si les acteurs peuvent déjà travailler ensemble avant qu'on fasse une loi, c'est pas plus mal.
Vous avez fait le choix de rencontrer 9 entreprises dans des domaines très différents.
Absolument.
Pourquoi avez-vous voulu cette diversité-là?
Pour voir filière par filière si l'hypothèse de base de dire tout le monde y va sur la circularité était vérifiée ou pas. Effectivement, dans toutes les filières, c'est le cas. Avec des interrogations selon les filières qui ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Moi, il y a une filière qui me revient, la filière du recyclage des fibres de carbone, par exemple, chez Fermat à Nantes. Ils font du recyclage des fibres de carbone, donc ils reproduisent de la fibre de carbone qui a les mêmes propriétés à 95% qu'une fibre de carbone neuve. Et pour autant, aujourd'hui, ils me disent, je ne sais pas si je suis vraiment dans la loi ou pas. Parce que les chutes de fibres de carbone que je récupère, je ne sais pas si elles ont le statut de déchet, de coproduit, de sous-produit. Donc ouais, ça va jusque-là dans le détail. Il va y avoir un moment où il va falloir qu'on redéfinisse ce qu'est un déchet industriel. Il y en a d'autres qui m'ont absolument étonné dans le domaine de la distribution. Je vais les citer. Le Roi Merlin, par exemple, où j'imaginais pas qu'une filière de distribution, alors là, c'est du matériel de jardin, du matériel domestique, bricolage, de maison, de bricolage, allait à ce point investir la circularité qu'ils imposent. Enfin, ils imposent. Ils passent des chartes avec leurs fournisseurs, ils ont créé un home index qui va calculer effectivement la circularité, le côté dépenses CO2 de ces fournisseurs, qui s'imposent pour ces magasins des choses assez strictes, c'est-à-dire que pas de fournisseur à plus de 150 km du magasin, Donc ce home index, où pour l'instant les notes sont majoritairement plus mauvaises que bonnes, hein, c'est juste... quelque chose incitatif pour les fournisseurs est affiché dans le magasin. Ils ne planquent pas ceux qui ont des mauvaises notes. Ils sont dans les rayons comme les autres. C'est pour les inciter à y aller aussi. Ils ont développé tout un système d'économie de la fonctionnalité de l'usage avec de la location de matériel. Des gens qui achètent, je ne sais pas, par exemple, un broyeur de branches. Bon, il faut quand même avoir un terrain... suffisamment important pour acheter un broyeur. Enfin, un broyeur, c'est peut-être pas l'occasion de l'utiliser tous les jours, pour être honnête. Si vous l'utilisez 3 ou 4 fois par an, c'est le bout du monde. Peut-être que ça vous coûte moins cher de le louer, finalement, que de l'acheter. Un système de réparabilité aussi. Et puis, ils ont dans leur magasin des conseillers qui, avant que vous achetiez, ont été formés aussi à la circularité, expliquent tout ça à leurs clients. Ils ont même des pôles pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour MaPrimeRénov', par exemple, d'accompagnement des clients. Alors vous me direz, oui, mais le business model, là-dedans, ils sont là pour vendre. Mais leur calcul est assez simple. Hein. C'est responsabiliser en amont les fournisseurs, responsabiliser sur site leurs vendeurs, leurs commerciaux, avoir un échange avec les clients qui est un échange de confiance. Demain, le client, il veut changer sa salle de bain, il veut changer sa cuisine, il veut faire son parquet, il ira chez le Roi Merlin. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre en rencontrant ces entreprises? En tout cas, qu'est-ce que ça vous a appris?
Ça m'a appris un truc que j'ai déjà remarqué depuis longtemps. Alors donc ça a confirmé ce que j'ai remarqué depuis longtemps, c'est que les entreprises sont beaucoup plus en avance que les politiques. Pas par philanthropie, pas par altruisme, on va être clair. Même s'il y a une conscience qui naît de la transition écologique et de la transition énergétique, les entreprises savent qu'elles sont obligées d'y aller. En réfléchissant au process et à changer leur business model... pour continuer effectivement à faire de la croissance, parce qu'elles savent que si elles n'y vont pas à un moment ou à un autre, elles seront mortes. Elles prennent conscience de la valeur de la transition énergétique et écologique, et du coup, elles sont dans l'accélération plutôt que sur le frein, la plupart d'entre elles. Ça y est, elles sont parties, elles sont dedans. Moi, j'ai des tonnes d'exemples de ça, des gens qui ont même changé jusqu'à leur site, leur process industriel, pour être vertueux. J'ai l'exemple d'un céramiste, qui a monté son petit truc de méthanisation pour faire de la pyrogazéification et passer à la flamme bleue. Ça ne lui rapporte rien en valeur sur les céramiques qu'il produit, hein, qui sont forcément un petit peu plus chères. Mais lui, sur son process industriel, maintenant, il est 100% vert. Et il l'a fait par conscience écologique Et voilà, c'est très bien comme ça.
Un autre point important, c'est la décarbonation des transports. Décarboner, c'est le fait de réduire son empreinte carbone pour limiter l'impact sur le climat. Qu'est-ce qui nous ralentit aujourd'hui sur ce sujet ?
Je crois que c'est ce qui nous ralentit, et c'est une conversation que je vais avoir avec le ministre des Transports dans pas longtemps, c'est que, pas que la France, le monde entier, en tout cas le monde occidental, a mis un formidable coup d'accélérateur sur le flux, donc sur les voitures neuves en passant aux voitures électriques. Là, je ne parle que des véhicules particuliers, hein, le vôtre, le mien, et il fallait le faire. Mais il ne fallait pas faire que ça. Et il y a comme un angle mort, c'est qu'on ne s'occupe absolument pas du parc existant. On n'a, par exemple, pas développé, alors qu'on pourrait le faire, et ça ne coûte pas d'argent, c'est simplement de la réglementation et de l'homologation. On ne s'est pas vraiment intéressé aux filières de rétrofitage, c'est-à-dire de remplacement d'une énergie par une autre, pas uniquement par les constructeurs automobiles. Or, on a 39 millions de véhicules en France en circulation, et on a 1 400 000 véhicules produits par an neufs. Donc vous voyez qu'il va nous falloir un certain temps quand même pour passer au tout électrique. Et certains, je ne parle pas du gouvernement, mais certains, parce que tout ça, il y a plein de lobbies autour, hein, bien évidemment, et les lobbies de l'électrique, mais c'est leur rôle, et on ne peut pas leur en vouloir, ont un petit peu, comment dire, pris le pas sur tout le reste, et on a oublié les énergies alternatives que sont, par exemple, le bioéthanol, que le GPL, l'hydrogène va arriver aussi, mais on a oublié le gaz vert, etc. Toutes ces énergies alternatives qui sont issues d'énergies fossiles mais qu'on décarbone puissamment et qui sont nécessaires à la transition. On ne s'est pas occupé d'elles. Or, dans ces énergies-là, avec l'arrivée de l'hydrogène, mais aussi avec l'arrivée de plus d'énergie électrique, on va pouvoir avancer sur des carburants issus de fossiles ou issus de végétaux qui seront totalement verts. C'est pour ça que moi, je me repose la question vraiment de l'arrêt du moteur thermique. Il faut qu'on y réfléchisse à deux fois et de voir comment les e-carburants, on les appelle comme ça, progressent pour ne pas s'enlever des solutions qui sont aujourd'hui à portée de main et qu'il faut développer. Donc il y a urgence à s'occuper du parc automobile via le rétrofit. Pareil, c'est une proposition que je vais faire au ministre. Et aider ces filières de rétrofit à se structurer, à en faire de vraies filières pour aider les gens simplement à pouvoir participer à la fête de la décarbonation. Le rétrofitage, ça va de 1 000 euros pour un boîtier au bioéthanol qui marche bien à 15 000 euros si vous passez à l'électrique, d'accord ? Et à l'hybride, par exemple, vous avez aujourd'hui des solutions à 8 000 euros. Bon, ben 8 000 euros, même si je prends 8 000 euros, qui est un peu cher, c'est quand même beaucoup moins cher que d'essayer de trouver une voiture électrique d'occasion. Et pour 15 000 euros, même en rétrofit électrique, c'est moins cher aussi qu'un véhicule électrique d'occasion aujourd'hui.
Pour clore sur le secteur automobile, à Flins, l'entreprise Renault a cessé la production de véhicules neufs fin mars pour au contraire reconditionner les véhicules d'occasion de la marque. Certains parlent de fermeture en douceur pour le groupe qui a délocalisé les productions vers d'autres pays. D'autres, au contraire, saluent cette reconversion. Quel est votre point de vue ?
Moi, je salue la reconversion. Il faut arrêter de raconter des conneries, quoi. Ils n'ont pas fait ça pour fermer. Renault, comme Peugeot, qui n'était pas forcément pour les véhicules électriques, souvenez-vous des déclarations de Carlos Tavares au début, maintenant il est pour, mais au début c'était un peu plus compliqué, ils ont bien compris que de toute façon le pli était pris. Renault fait trois choses même là-bas. Il y a le reconditionnement des véhicules d'occasion. Moi, je trouve ça assez génial comme idée quand même. C'est que vous allez voir dans votre concession un véhicule d'occasion. Bon, essayez de prendre le moins cher parce que vous n'avez pas les moyens. Puis on vous propose, je crois, c'est trois niveaux de reconditionnement différents jusqu'à un reconditionnement pratiquement à neuf. Vous voyez avec votre budget si vous pouvez le faire ou pas. Du coup, si vous pouvez le faire, bah, vous repartez avec une voiture quasiment neuve. Moi, j'ai été voir les gars qui travaillaient au reconditionnement, qui avant travaillaient sur les chaînes, qui ont été formés. C'est pas la même vie pour eux. Hein. Ils sont plutôt heureux de s'occuper de leur bagnole. Quoi. Leur fierté, c'est d'avoir une bagnole. Alors, atelier par atelier. Hein. Il y a le gars qui va s'occuper de la carrosserie, qui va décabosser. Donc, il a ses voitures à s'occuper. Et il est plutôt fier d'avoir remis la voiture en état au niveau carrosserie, avant peinture, nickel, comme si elle sortait de l'usine. C'est sa bagnole, il s'est occupé de sa bagnole. C'est autre chose que de visser des boulons comme les temps modernes de Chaplin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont commencer la production de véhicules électriques, de véhicules utilitaires légers électriques. Je crois que ça a commencé d'ailleurs début janvier, il me semble. Et puis la dernière chose, ils sont en train de travailler sur l'hydrogène. Et ils travaillent aussi sur le stockage électrique d'énergie renouvelable, puisqu'une batterie automobile, ça, peu de gens le savent, quand elle arrive à 70% de sa performance simplement, elle est retirée des véhicules parce qu'elle n'est pas suffisamment puissante pour faire marcher le véhicule. En revanche, les 70% qui restent permettent de stocker de l'énergie renouvelable. Vous voyez, tout ça se tient.
Votre autre cheval de bataille, c'est l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
L'efficacité énergétique, c'est de se dire, quand je vais investir un euro, que ce soit un euro de l'État ou un euro à soi, dans le logement, par exemple. Je trouve que mon logement est trop énergivore et je voudrais le rénover. Aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 40 ans, à peu près 40 ans qu'on fait de la rénovation énergétique, et aujourd'hui, on subventionne essentiellement l'achat de matériel électrique. Bon, ok. Ça provoque quoi ? Ça provoque automatiquement, matériel énergétique. Ça provoque automatiquement un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'une filière qui est subventionnée, forcément, ses prix vont augmenter. Bah oui, quand il y a un filon, on l'exploite. Enfin, moi, je serais entrepreneur, je ne ferais pas autrement. Pour une efficacité énergétique derrière qui n'est pas prouvée. Si on prend la rénovation des bâtiments, le DPE est tombé, là, parce que ça ne marche pas trop fort, la rénovation des bâtiments. Le DPE était quelque chose de compliqué. On a essayé de l'améliorer. On voit bien que ça ne marche pas. Moi, j'ai fait le test chez moi. Hein. J'ai fait venir 3 entreprises juste pour m'acculturer. Je ne rénove pas ma maison, je vous rassure. J'ai eu 3 résultats différents. Bon, ça pose un petit problème quand même. Plutôt qu'un DPE, moi, je voudrais qu'on accorde à chaque bâtiment, quand il est construit neuf ou même quand il est ancien, à la demande du propriétaire, fasse une carte grise du bâtiment. C'est assez simple, vous venez avec des caméras thermiques, vous regardez les forces et les faiblesses de votre bâtiment, et cette carte grise du bâtiment donne l'état exact de votre bâtiment aux futurs entrepreneurs qui vont s'occuper de la rénovation.
Un peu comme une ligne de conduite.
Exactement. Les futurs entrepreneurs, vous faites un groupement momentané d'entreprises, pour pas que les gars déjà se tirent la bourre entre eux au niveau des prix. Vous faites un groupement momentané d'entreprises, ils vont se regrouper entre eux, ils vont vous proposer plusieurs scénarios de rénovation, vous choisissez celui qui vous convient en fonction de votre budget, etc. Au bout du compte, puisque quand vous avez choisi un scénario, vous partez sur de l'efficacité énergétique au bout, c'est-à-dire gagner 10%, 20%, 30%, 40% d'efficacité énergétique. C'est lié par contrat avec le groupement d'entreprises momentanées. Ils ont l'obligation d'arriver au résultat. Et à partir de là, le résultat étant atteint, l'État, dans ses subventions, subventionne non plus l'achat de matériel énergétique, mais la réalité de l'efficacité énergétique obtenue. Si vous n'avez fait que 10% d'efficacité énergétique en plus, ben vous aurez une petite subvention. Vous arrivez à 70%, vous avez une grosse subvention. Et on vous remet à nouveau une nouvelle carte grise, comme quand vous achetez une voiture d'occasion. Et on impose surtout à la fin le pilotage, parce que ça va aussi avec l'efficacité énergétique. On différencie souvent sobriété et efficacité, les deux sont liés. Vous obligez à la fin de la rénovation de votre bâtiment le pilotage domestique, la domotique en fait, le pilotage domestique de tous vos appareils énergétiques. Avec une seule appli, ça existe déjà, ça ne coûte pas très cher, vous l'avez sur votre smartphone, vous partez de chez vous en vacances, vous avez oublié d'éteindre votre chaudière ou votre télé, ça arrive. La télé, c'est ce qui arrive le plus. Vous la laissez sur veille, vous en apercevez même à 100 km de chez vous, vous appuyez sur le bouton qui fait bien et hop, la télé s'éteint complètement. C'est mettre en veille totalement, c'est à mettre à l'arrêt totalement votre maison. Et ça peut se faire très facilement avec une appli. Et là, on gagne à la fois en sobriété et à la fois en efficacité énergétique. Et on ne subventionne pas les appareils, on subventionne l'efficacité au bout du compte.
Et pour finir notre émission, parlons local. En ce moment, le point de crispation, c'est celle qu'on appelle la LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie. Comment vous la percevez ?
Pour l'instant, je ne la perçois pas. Ça, je vais être clair avec vous. Je ne l'aperçois pas du tout. Je ne vois pas du tout l'intérêt pour les franciliens de cette nouvelle ligne, puisque aux dernières nouvelles, je crois que les élus normands ne veulent plus d'arrêt à Mantes-la-Jolie. Je ne vois pas le nombre de sillons supplémentaires qu'on va obtenir pour le fret. En revanche, je vois bien tout ce que ça va nous coûter en termes de terres agricoles, de désagréments sur un territoire comme le mien, qui a déjà pas mal souffert de désagréments. Des fois, j'ai l'impression que notre circonscription est la poubelle des Yvelines, où tous les projets qu'on ne veut pas ailleurs, on les met là. J'en parlerai aussi au ministre quand je le verrai le 6 juin. J'ai déjà eu des discussions là-dessus avec le préfet. C'est vrai que d'un point de vue francilien, on ne voit pas très bien l'intérêt de la chose. ça va coûter beaucoup d'argent. Moi, je voudrais être sûr que l'argent qui va être investi là-dessus soit vraiment rentabilisé après par la mise en fonction de cette ligne et qu'elle apporte un vrai plus aux citoyens, quel qu'il soit. J'en suis pas persuadé aujourd'hui.
Et ce serait le mot de la fin, monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com ainsi que les précédentes. À très vite pour une nouvelle émission sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.